Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Par ici les sorties. Depuis le 13 octobre et jusqu'au 30 novembre, on va dire un peu partout dans le département d'Eure-et-Loire, se déroule un événement, le Festival du Légendaire, Festival du Conte et de l'Imaginaire en Eure-et-Loire. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pascal Folliot, qui est, si je ne m'abuse, le directeur artistique de ce festival, c'est ça ?
Oui, absolument. Bonjour à tous.
Et à tous.
Et à toutes.
Alors, donc, Pascal, je peux dire Pascal parce qu'on se connaît quand même depuis un certain temps, c'est la 19e édition de ce festival.
Oui, absolument. Ça commence à devenir un exploit de tenir si longtemps.
C'est presque une institution.
Oui, presque.
Alors, si vous voulez bien, je vais quand même citer, avec le risque d'en oublier, quelques-unes des villes où se déroule le Festival du Légendaire, année... Honneau, Chartres, Châteaudun, Châteauneuf-en-Thymeré, Coulon, Dreux, Illy-Combré, La Ferté-Vidame, La Loupe, Lucé, Luisant, Maintenon, Mavilliers, Vernouillet. J'espère ne pas en avoir oublié d'importance. Et en fait, c'est ce festival. C'est une série de manifestations aussi variées que multiples. Alors, si vous voulez bien, il y a d'abord... des expositions. Alors là, les expositions, c'est permanent, donc où est-ce qu'il y a des expositions ?
Alors, il y a des expositions à la médiathèque de Chartres. Il y en aura deux.
Oui.
Une exposition sur la collection Contes des Sages du Seuil et une autre avec une star de l'illustration jeunesse, Rebecca d'Outremer. On fait une espèce de rétrospective de ces héros, parce que cette année, le thème du festival, ce sont les... Mille et un visages du héros.
Du héron, l'oiseau.
Et des héroïnes.
Ah, des héroïnes, d'accord.
Ouais, ouais. Alors, donc, il y aura aussi une partie de l'exposition de Rebecca d'Outremer à notre temps fort au château de Maintenon aussi. Qu'est-ce que j'oublie dans les... Alors, il y aura aussi au château de Maintenon... des expositions et installations de travaux réalisés avec l'opération C'est mon patrimoine, parce qu'on est associé à cette opération qui a lieu pendant les vacances au château. Il y a des groupes d'enfants qui vont venir travailler autour de l'imaginaire, en lien bien sûr avec s'appuyer en fait sur le lieu patrimonial pour... comme support pour imaginer, par exemple, un décor de conte de fées, vous voyez. Donc, c'est ce travail de relier le patrimoine et le rêve, l'imaginaire. C'est un peu notre leitmotiv aussi, parce que, en fait, les contes eux-mêmes, la littérature orale, c'est le patrimoine immatériel de l'humanité qui est très précieux et qu'il faut non seulement conserver, mais renouveler en permanence. Et notamment en s'appuyant sur, finalement, des artistes contemporains qui vont redonner du souffle à ces vieilles histoires.
Oui, c'est-à-dire un peu, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, c'est un peu tous ces récits qui ont traversé un peu les siècles, qui ont été transmis dans les familles, souvent, hein, dans les familles ou dans les villages, et que là, vous empêchez de mourir en leur donnant, en les rendant actuels, contemporains. C'est ça, si j'ai bien compris.
Oui, ou en leur redonnant... c'est pas forcément une actualisation complète, mais en tout cas, c'est en redonnant vie à ces récits, alors plus ou moins en les adaptant, en les recréant, mais en tout cas pour que des oreilles contemporaines ou... quand ils viennent d'une autre civilisation, il y a aussi une transposition, il s'agit de transmission. Mais c'est surtout parce que ces récits sont très précieux, C'est vraiment ils constituent les racines mêmes de l'humanité, ce sont les plus anciens récits du monde. Il n'y a pas que la tradition orale, ce sont les premiers textes écrits de l'humanité. Gilgamesh, c'est une épopée qui a été sumérienne, qui a été écrite avec les tablettes et l'écriture cunéiforme 2000 ans avant Jésus. C'est vraiment l'un des premiers écrits de l'humanité, donc comme les mythes aussi égyptiens. Mais par contre, on ne peut pas finalement comprendre même notre civilisation si on n'est pas en contact avec ces récits fondateurs.
Donc, c'est un peu, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, c'est la mémoire de l'humanité.
Oui, oui, absolument.
Ça me fait penser à un poète qu'on ne connaît plus très bien aujourd'hui, Patrice de la Tour du Pin, qui disait « Les pays qui n'ont plus de légende sont condamnés à mourir de froid ».
Voilà, c'est ça.
C'est un peu ça.
Oui, 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 parce que c'est vraiment là où souffle l'esprit. Alors, moi, je suis fasciné, en fait, par cette relation entre le patrimoine et l'imaginaire, parce que, bon, le patrimoine, par exemple, bâti architectural, peut servir de support à l'imaginaire. On voit d'ailleurs que ça s'est fait dans des films comme Podan. Un château devient un décor pour un film. Mais, en fait, ce qu'on oublie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que des châteaux, des églises et surtout une cathédrale, c'est la projection de l'imaginaire et de la mémoire de l'humanité dans la matière. C'est l'incarnation d'un imaginaire. Parce qu'on sait aujourd'hui que les récits bibliques sont en grande partie légendaires. Le déluge, c'est déjà dans la mythologie sumérienne, l'histoire du déluge.
Dans Gilgamesh.
Voilà, mais même aussi dans la... Parce que Gilgamesh, c'est une partie de la mythologie sumérienne, donc c'est évoqué ailleurs aussi, dans l'Enuma Elish, qui est le récit fondateur, où il y a pourquoi le déluge arrive avec les dieux qui sont fâchés contre les hommes, etc.
D'accord. Et alors, vous avez dit que ce sont des récits, des légendes, des contes, enfin bon, peu importe comment vous l'appelez finalement, qui viennent un peu de tous les pays, notamment, alors, je gardais un peu le programme, d'Afrique notamment.
Oui, oui, ben oui, parce qu'en fait, le conte est universel, c'est vraiment le récit qui se transmet de génération en génération pour comprendre le sens de, en tout cas comprendre et s'interroger sur le sens de la vie, pour transmettre des valeurs, des idéaux, des archétypes, une morale, c'est vraiment un... D'ailleurs, comme le dit La Fontaine lui-même, le conte fait passer le précepte avec lui.
D'accord. Et il y a donc des expositions, il y a des soirées, enfin des spectacles de contes où quelqu'un dit des contes, je suppose. Hein?
Oui, oui, absolument. Donc, il y a des conteurs qui viennent effectivement de différentes origines. Alors, ils sont francophones, hein, parce qu'on ne donne pas quand même trop dans l'exotisme et une reconstitution ethnographique comme un festival à Paris qui fait venir que des bardes d'Asie centrale qui déclament dans leur langue et on est obligé de mettre les traductions, projeter les traductions. Non, nous, c'est toujours en français. Parfois, ça peut être un conteur d'origine étrangère qui a un accent. Donc, on a aussi bien des Africains subsahariens que de l'Afrique du Nord aussi. Les berbères. Alors, on a beaucoup de musiciens qui accompagnent les conteurs, parce que ça aussi, ça fait partie de la tradition. La musique aide à voyager, à émouvoir aussi, nous emmène dans un autre monde. Mais on a aussi, par exemple, une conteuse qui est française d'origine, mais qui s'est pris de passion pour la culture océanienne, et qui vit actuellement sur l'île de Pâques, et qui collecte là-bas, et qui, d'ailleurs, elle s'est mariée avec un habitant, un autochtone. Et donc, elle collecte là-bas aussi bien les contes que les danses, parce que d'ailleurs les contes sont souvent racontés avec la danse, les fameux haka et puis la danse des vaïnes. Et donc tout ça, en fait, les récits sont entièrement liés à une culture. On retrouve ça partout.
Et vous parliez de la musique, donc c'est quand même important. Vous avez plusieurs manifestations où il y a intervention musicale. Je pense avec des instruments qui ne sont pas forcément des instruments que nous connaissons, nous.
Oui, par exemple, il y a une épopée du Caucase, la danse des nartes, qui est très très ancienne. Alors, les nartes ont passionné Dumézil, qui était donc un grand universitaire qui s'intéressait à ce qu'on appelle le monde indo-européen et justement aux mythes, aux épopées. Et là, donc, c'est un jeune conteur qui est accompagné par un musicien polyinstrumentiste qui joue des instruments du Caucase, justement, le saz,
Pardon,
le saz, qui est
alors,
un luth à longs
excusez-moi,
manches.
pouvez-vous traduire?
Le
C'est quoi comme
saz,
son?
c'est un luth à longs manches qu'on retrouve en Iran, en Turquie, dans le Caucase. Il y en a un à Maintenon, au kebab. L'autre soir, j'ai parlé de ça et le patron a sorti son saz et s'est mis à en jouer.
Alors,
Et merveilleusement bien en plus.
combien il y a de cordes?
Je ne sais pas trop, je pense qu'il y en a peut-être 5, mais je ne sais pas là.
Alors, comment être un autre instrument à part?
Alors, il y a le kamanché qui est une vielle aussi d'Asie centrale, du monde persan aussi. Il y a le pandouri qui est une espèce de luth typique de Géorgie. Voilà le genre d'instrument qui sera utilisé. Et ils vont faire aussi dans le cadre de ce conte musical. Des polyphonies géorgiennes aussi.
D'accord. Mais ce qui est bien, alors tout à l'heure vous avez parlé de l'île de Pâques,
Oui.
hein? Vous parlez là de l'Asie, mais disons Asie centrale et presque orientale,
Et Caucase,
et Caucase, très
parce que
important.
Aznavour venait de, enfin, est
D'Arménie.
originaire d'Arménie. L'Arménie est dans le Caucase. C'est la frontière entre l'Europe et l'Asie. C'est le carrefour entre l'Europe et l'Asie où il y a toutes les influences qui se concentrent.
En clair, certaines de vos soirées, sans avoir besoin de passeport, permettent de passer des frontières.
Voilà, c'est
Et des
ça.
frontières non seulement entre des pays, mais entre ce qu'on appelle des continents, entre l'Europe, l'Asie, par
Ouais.
exemple.
Mais alors, par contre, ce qu'on découvre, ce qui est fascinant, c'est que dans toute cette diversité culturelle, avec vraiment bien sûr des grandes différences, on retrouve une unité fondamentale de l'aspiration de l'humanité avec des valeurs, des archétypes et même des schémas d'histoire qui sont les mêmes, qui ont été partagés et qui ont voyagé dans toutes les civilisations. Par exemple, il y a une cendrillon berbère, il y a une cendrillon tibétaine, il y a une cendrillon japonaise. C'est
D'accord.
le même archétype d'histoire, mais avec des vêtements différents. Donc ça, c'est quand même extraordinaire, la permanence d'une unité de l'humanité. Donc il y a l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité.
Sur ces paroles fort sages, nous allons prendre une pause musicale.
Thank you. أسهر الليل كأني من هواها في وثاقي لا أطيق الصبر عنها لا أطيق الصبر عنها ذقت ذرعا بالفراق ذقت ذرعا بالفراق نفسي ما تلاقي من أمور تعتريها هي منها في السياق.
Ce qui est un, ce qui me fascine dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que à partir de l'imaginaire, à partir des légendes, à partir des contes, appelons ça comme vous voudrez, on retrouve un noyau fondamental dans tous les pays, sur tous les continents. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu la même façon de voir les choses d'un continent à l'autre.
Oui, alors bon, après, il y a par exemple les idées platoniciennes. C'est le fait qu'il y a des idées ou des principes préexistants qui sont captés par l'humanité, par des chamans. On pense que les premiers conteurs, c'était les chamans qui captaient, en fait, comme des médiums, des... Alors, il y en a même qui disent que les contes, les récits sont des esprits vivants qui vont tout à coup chevaucher le conteur et qui parlent à travers leur bouche. Donc, ça rejoint les idées platoniciennes et aussi les archétypes jungiens. En fait, il y a donc des schémas, des archétypes préexistants qui cherchent à s'incarner, mais surtout à nous orienter. Parce que finalement, l'être humain cherche... un sens à sa vie et à se relier à un modèle qui procède d'une vision du monde. Et c'est pour ça que ces grands récits sont fondateurs souvent d'une civilisation. Le Ramayana, par exemple, et le Mahabharata, c'est le fondement de la civilisation hindoue au même titre que la mythologie elle-même. On retrouve l'un des grands récits fondateurs égyptiens, le mythe d'Isis et d'Osiris, on a déjà le thème de mort et résurrection, puisque Osiris est démembré et Isis va retrouver les morceaux, le remembrer et le ressusciter. Et après, il passe dans l'autre monde. Il va enfanter Horus et il va passer dans l'autre monde. Donc on voit la permanence de ces archétypes et du fait qu'il y a ce souci justement du devenir de l'être après la mort. C'est le grand mystère qui est sondé par toutes ces traditions. Après, il y a aussi la fable, pour être un peu plus léger, qu'on retrouve aussi partout. La Fontaine lui-même ne se prétend que conteur. Il dit « Moi, je prends des histoires anciennes et je les mets au goût du jour. » Et il cite ses sources, puisqu'il s'est aussi bien inspiré d'Ésope que de Bidpai, donc des fables qui viennent de l'Inde. Et les fables, on voit bien, c'est des histoires qui peuvent nous accompagner toute la vie, parce qu'on se dit « Ah tiens, c'est vrai, je suis un peu comme... je suis un peu dans la situation du meunier. Le meunier, son fils est là. Celui qui un jour, par exemple, monte sur son âne et puis il laisse son fils à côté. Et les gens le critiquent parce que voilà, il laisse le pauvre garçon marcher pendant des kilomètres comme ça alors qu'il est très jeune. Après, il fait l'inverse, il met le fils sur l'âne et les gens critiquent parce que le fils est irrespectueux parce qu'il laisse le père alors après ils marchent tous les deux à côté de l'âne et là ils se font critiquer parce qu'on dit quels idiots, ils ont un âne, il n'y en a même pas un qui en profite Et à la fin, ils sont tous les deux sur l'âne. Et alors là, ils sont encore critiqués parce que justement, ils abusent de ce pauvre animal. Et la conclusion de La Fontaine, c'est que, en fait, quoi qu'on fasse, on sera toujours critiqué.
Alors, par contre, comme vu le nombre de manifestations, de concerts, de conférences, de récits et autres, je ne saurais trop vous conseiller d'aller sur le site du festival. Alors, je vous donne l'adresse www.lelegendaire.com. Je ne me suis pas trompé ?
Oui, alors on a un petit problème en ce moment avec le site. C'est mieux de taper lelegendairefestival.wordpress.com. Mais bon...
Mais sur le net, les gens vont...
Oui, c'est-à-dire que s'ils tombent sur un problème, il faut qu'ils persistent. Parce que comme le site a été transféré, il faut quand même qu'ils continuent. Il faut qu'ils appuient sur un bouton pour continuer. Et alors, effectivement, il y a le temps fort au château de Maintenon, les 27-28 octobre, où là, il y a des colloques. Il y a comme un colloque avec des tables rondes, des conférences. Il y a des spectacles, contes musicaux et gestuels, avec des conteurs qui viennent un peu partout, des musiciens aussi. Et puis, il y aura des installations plastiques, expositions, qui seront le résultat du travail avec les enfants pendant toutes les vacances. Et donc, le château sera un peu métamorphosé aussi. C'est-à-dire que là aussi, on aura le patrimoine transfiguré d'une certaine manière. Voilà.
Alors, vous avez dit tout à l'heure... vous avez parlé des enfants, mais je pense que ce n'est pas restrictif.
Ah non, non, pas du tout. Non, il y a même des choses qui sont quasiment que pour les adultes. Hein, voilà. Alors, il y aura aussi dans un spectacle où je raconte un samouraï, qui est un maître d'arts martiaux, mais aussi danseur de théâtre no. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Parce que c'est pareil, le théâtre no est complètement imprégné de légendes japonaises. Hein. Donc on voit bien que tout est relié.
Ce qui m'intéresse, vous parlez du théâtre no. Admettons que quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'y connaît rien, est-ce que ce fameux spectacle de théâtre no, est-ce que ce sera accessible à tout le monde ?
Ah oui, c'est pas un spectacle de théâtre no, c'est avant tout un spectacle de conte, mais avec un... Non, moi je vais raconter l'épopée d'un samouraï, voilà. Il y a des musiciens qui m'accompagnent, et lui va être inclus avec et des arts martiaux et des danses, et qui vont permettre d'entrer dans cet imaginaire japonais. Mais en fait, le conteur est comme un médiateur qui vous fait rentrer dans une autre civilisation.
Alors, tout à l'heure, en vous écoutant, je pensais que vous aviez un côté passeur de mémoire. C'est-à-dire que vous transmettez une mémoire au public d'aujourd'hui. Mais maintenant... À côté de passeur de mémoire, vous êtes aussi passeur de frontières. C'est-à-dire que, par exemple, vous parlez là du Japon, tout à l'heure vous parliez de l'île de Pâques, donc ça veut dire que, au fond, si on peut s'exprimer ainsi, la Terre est la même pour tous, partout.
Fondamentalement, oui. Après, il y a des formes qui divergent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'entrer dans l'esprit qui anime ces formes. Et c'est ça, par exemple, que peut être le rôle d'un conteur ou d'un ethnologue, quelqu'un qui a étudié une civilisation et qui va vous donner des clés pour y accéder.
Alors, des clés, on peut le dire, des clés magiques. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de Peau d'âne. Vous avez évoqué le film. Des clés magiques qui peuvent être contemporaines, puisque dans le film, la marraine, la fée, arrive en hélicoptère, je crois.
Ah oui.
Donc, ça échappe au temps. Ou ça domine le temps. D'accord ?
Ah, tout à fait, oui, oui. Bah, de toute façon, bon, maintenant, on sait que, par exemple, Star Wars, la guerre des étoiles, c'est complètement composé avec des archétypes, et notamment à partir des travaux d'un grand mythologue qui avait même classé et fait des schémas narratifs. Et en fait, ça, c'est maintenant de notoriété publique que les scénaristes se sont basés sur ces travaux. Donc, ils ont recyclé, en fait, les archétypes traditionnels. C'est pour ça que c'est si fort. Et c'est la même chose avec Tolkien, qui a fait exactement la même chose.
Donc, Star Wars, inconsciemment, le public a senti qu'il y avait quelque chose qui venait de plus loin, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, oui, absolument. Ben, on sait bien aussi que les Jedi, c'est la, entre la confrérie des chevaliers de la table ronde, les samouraïs, la manière dont ils sont initiés, ça rejoint complètement les arts martiaux, qu'ils soient chinois ou japonais. On voit bien aussi que les uniformes même, ils ont été inspirés par certaines traditions.
Donc, finalement, si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire, pour se retrouver soi-même, il faut aller dans la légende.
Oui, et que veut dire légende ? Ça veut dire ce qui doit être lu, ce oui. qui doit être finalement compris. La légende d'une carte, c'est ça, c'est pour lire la carte.
Oui, mais je pense que les gens qui vont intervenir dans vos soirées, vos rencontres, etc., ils vont réciter, ils ne vont pas lire.
Non, mais ce qui doit être lu au sens symbolique, c'est comme le je crois, je ne suis pas très savant dans ce domaine, mais je crois que le Coran, c'est ça. C'est le livre, c'est ce qui doit être lu, ce qui doit être déchiffré. C'est ça que ça veut dire, c'est que en fait, c'est le sens même de la révélation. On est là, par exemple, ce que je trouve extraordinaire aussi dans une séance de conte, c'est qu'on est là ensemble. Quelqu'un, parce que peut-être il connaît mieux l'histoire, la repartage avec tout le monde et on communie ensemble autour de ce récit qui nous transporte quelque part, peut-être au plus profond de nous-mêmes. Et c'est comme une célébration. Et d'ailleurs, on retrouve justement dans le schéma des contes merveilleux, il y a les épreuves, le héros doit les dépasser, se surpasser, et à la fin, il trouve le Graal, ou la princesse, ou la lumière, ou la guérison. Donc, en fait, il y a un processus initiatique, thérapeutique, et c'est un rituel collectif. D'ailleurs, les contes commencent souvent par des formules d'introduction, des formules de conclusion. On rentre dans cet univers, on en ressort.
Alors, simplement, quelques mots pour rappeler que jusqu'au 30 novembre se déroule le Festival du Légendaire, le 19e Festival du Légendaire, dans de multiples villes d'Eure-et-Loire. Alors, si vous permettez, en remerciant celles et ceux qui nous ont écoutés, je voudrais rappeler simplement une phrase d'un monsieur qui nous a quittés il y a 40 ans, qui s'appelait Jacques Brel, et qui avait enregistré une très belle chose qui se terminait ainsi, dites, si c'était vrai, tout cela. Merci, Pascal Folliot, merci de nous avoir écoutés, au revoir.
Merci aussi.